Europe 1, édition spéciale, Isabelle Milleul.
Il est 19h19, édition spéciale, donc ce soir sur Europe 1, jusqu'à 21h, nous sommes ensemble pour suivre cet hommage national à Samuel Paty avec l'ensemble de la rédaction d'Europe 1, ici en studio et sur place bien sûr à la Sorbonne avec Jean-Rémy Baudot, Pierre Herbulot et Caroline Baudry, avec mes invités également qui vont nous accompagner pour vivre ce moment et pour commenter les différentes prises de parole, en particulier celle d'Emmanuel Macron qui devrait intervenir un peu avant 20h et que nous écouterons en direct. Alors ça commence dans un instant à l'autre, on entend la petite musique qui annonce l'arrivée des invités, l'installation des invités dans la cour de la Sorbonne. On va retrouver tout de suite sur place Jean-Rémy Baudot. Jean-Rémy, en ce moment se déroule la cérémonie en présence uniquement de la famille de Samuel Paty.
Oui, c'est une cérémonie qui se passe dans un cadre beaucoup plus intime que cette cour d'honneur de la Sorbonne. Et il y a quelques instants, eh bien, le président vient de remettre la Légion d'honneur à Samuel Paty, devant donc sa famille, avant que le cercueil ne rejoigne cette cour d'honneur. C'est effectivement la volonté de l'Élysée et de la famille que ce moment se passe dans un huis clos intime, avant le début de cet hommage national où il y aura des textes, où il y aura par exemple la lettre de Camus à son instituteur, où il y aura de la musique, où il y aura, vous en parliez à l'instant, le discours d'Emmanuel Macron, un discours annoncé comme sobre, simple, à hauteur d'homme, dit l'Élysée. Un hommage national et finalement un hommage républicain, ce qui est très frappant quand on est dans cette cour, au milieu, devant les statues de Victor Hugo et de Louis Pasteur, c'est que toute la République est ici et se parle. Je suis à quelques mètres de Marine Le Pen, qui est assise à côté de Nicolas Dupont-Aignan, du député insoumis Adrien Quintenas, un peu plus loin Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée, des ministres François Bayrou. C'est une sorte de parenthèse républicaine où tout le monde se parle, où tout le monde se côtoie. Il y a le représentant des différentes religions qui sont ici. Il y a des représentants du corps enseignant. Il y a des élèves. Il y a des élèves d'Île-de-France. Une espèce de parenthèse, effectivement. Et puis un hommage musical dans la cour. Les musiciens de la garde républicaine sont en train de jouer. Vous devez les entendre derrière moi.
Du Mozart.
Et c'est, oui. C'est sur une chanson de U2 que le cercueil de Samuel Paty rentrera dans la cour d'ici quelques minutes. U2, la chanson One, c'est une chanson qui a été choisie par la famille du professeur, car Samuel Paty était un grand fan du groupe de rock irlandais.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot. En direct donc de cette cour d'honneur de la Sorbonne, vous nous le disiez, pour l'instant la cérémonie privée et familiale se déroule dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. C'est un endroit très, très particulier, là aussi très symbolique, hein, Lord Autriche.
Absolument. Le fait que cette cérémonie commence dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne est déjà symbolique parce que, imaginez, cet amphithéâtre est décoré dans des tons de vert, la couleur traditionnellement attachée au savoir. Et faut imaginer que c'est un lieu qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. On y trouve aussi les statues célèbres de Descartes, de Pascal, de Richelieu. Évidemment, c'est une tribune pour les discours officiels aussi, ce grand amphithéâtre. C'est là qu'Emmanuel Macron s'était exprimé notamment en 2017, quelques mois après son élection, pour parler d'Europe. Donc, c'est aussi un symbole même du savoir, ce grand amphithéâtre.
Merci beaucoup, Lord Autriche. À mes côtés également ce soir, je voudrais vous donner rapidement la parole Jean-Louis Auduc, ancien professeur de géographie, ancien directeur de l'IUFM de Créteil et membre du Conseil des sages de la laïcité. Cet hommage à la Sorbonne que vous allez suivre avec nous en direct sur Europe 1, c'est une façon pour le président de dire aux enseignants que l'on compte plus que jamais sur eux ?
Ah, moi, je crois que c'est une façon aussi de dire aux enseignants que la nation les reconnaît, a confiance en eux. Parce que moi, j'ai vécu en tant qu'enseignant et j'ai vécu en tant que formateur d'enseignants un certain délitement de la confiance dans le discours des enseignants avec la massification, dont d'ailleurs les islamistes se sont emparés de ce délitement. On y reviendra sans doute. Et moi, ce que j'attends du président, c'est qu'il conforte effectivement la mission des enseignants, ô combien importante pour construire la nation dans notre pays.
Et vous allez rester évidemment avec nous, Jean-Louis Auduc, pour vivre tous ces moments qui s'annoncent très forts, hein, cette cérémonie d'hommage. On va marquer une très courte pause et puis on suivra ensemble, en direct, cette cérémonie, en direct de la Sorbonne.
Europe 1, édition spéciale, Isabelle Millet.
Il est 19h26, merci à vous d'écouter Europe 1. Vous savez que nous sommes actuellement en édition spéciale puisque ce soir se déroule cette cérémonie d'hommage national en direct de la Sorbonne que l'on va suivre ensemble. Nous serons en direct jusqu'à 21h avec nos invités, nos reporters sur le terrain. Michaël Darmon également, chef du service politique d'Europe 1 qui est à mes côtés alors que l'on attend bien sûr l'arrivée d'Emmanuel Macron qui ne devrait pas tarder. Ce sera un hommage, Michaël, avant tout populaire et simple à l'image finalement de Samuel Paty. C'est ce que souhaite en tout cas la famille.
Oui, effectivement, et le fait d'être à la Sorbonne aussi ressemble à Samuel Paty, parce que de tous ceux qui l'ont connu, à travers tous les portraits qu'on a entendus ces derniers jours, on a bien compris qu'il s'agissait d'un éducateur passionné qui pensait que l'éducation, justement, émancipait les jeunes d'extraction populaire. Or, la Sorbonne, justement, accueillait les écoliers pauvres.
Je vais vous interrompre, Michaël Darmon, parce qu'à l'instant, pardonnez-moi, mais absolument, à l'instant, les invités dans cette cour d'honneur de la Sorbonne se lèvent avec, on imagine, d'ici quelques secondes, l'entrée d'Emmanuel Macron et bien sûr du cercueil de Samuel Paty dans cette cour d'honneur de la Sorbonne. Un cercueil qui sera porté par les gardes républicains. On voit énormément de solennité sur les visages de tous les invités qui sont présents. Il y a bien sûr la famille, les amis, des enseignants également, pour cet hommage à un enseignant mort pour avoir enseigné, pour avoir fait son métier finalement. Il y a aussi quelques enfants qui vont être présents, beaucoup de temps fort. On nous annonce notamment des lectures qui devraient certainement nous bouleverser. La classe politique, je le disais, les amis, la famille, les enseignants, toutes ces personnes sont debout dans cette cour d'honneur des Invalides. Il y a un côté effectivement très, très solennel, très émouvant. Il n'y a pour l'instant pas de bruit. C'est un moment extrêmement, extrêmement fort qu'on est en train de vivre, à la hauteur, j'ai envie de dire, de ce drame qui a complètement bouleversé les Français.
Oui, comme disait d'ailleurs tout à l'heure Jean-Rémy Baudeau, il s'agit vraiment d'une parenthèse républicaine, comme la vie, la République sait vivre ces moments-là, sachant que bien évidemment, ils doivent aussi forcément ne pas durer trop longtemps. Malheureusement, vous l'avez dit, des moments symboliques forts dans cette cour de la Sorbonne, comme on disait tout à l'heure, qui est aussi à l'origine accueillait à sa création aussi des écoliers pauvres et qui vient aussi donner un symbole supplémentaire pour le travail que faisait aussi Samuel Paty dans ces quartiers populaires qu'il avait choisi pour enseigner. Et vous le disiez également, des écoliers qui vont lire des textes, qui vont lire notamment ce fameux texte écrit donc, et prononcé par donc Albert Camus au moment où il a reçu le prix Nobel, cette fameuse lettre à mon instituteur.
Et donc le cadre de cet hommage national, l'or d'Autriche, la cour d'honneur de la Sorbonne.
À nouveau, un lieu très symbolique de cette université. Il faut imaginer cette cour pavée et aux deux extrémités de cette cour, deux statues, celle de Pasteur, celle de Victor Hugo, qui rappellent finalement la complémentarité des lettres et
Emmanuel
des sciences.
Emmanuel Macron est en train de faire son entrée d'ailleurs dans cette cour d'honneur de la Sorbonne, l'or d'Autriche, le président, visage grave, masque noir sur le visage qui s'installe à côté de son premier ministre. Il y a à côté également le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Toutes les corps constitués, toute la famille politique est là pour cet hommage. Emmanuel Macron qui attend donc, comme nous, l'arrivée du cercueil de Samuel Paty, l'or d'Autriche, dans cette cour d'honneur de la Sorbonne.
Dans cette cour, avec juste à côté aussi cette chapelle de la Sorbonne, dans laquelle repose le tombeau de Richelieu notamment. Donc on a effectivement beaucoup d'intensité ici, et c'est finalement ce temple de l'esprit des Lumières qu'Emmanuel Macron a choisi. Vous le disiez, Michaël, aussi au 19e siècle, il faut imaginer qu'ici à la Sorbonne, on pouvait entrer, qui voulait entrer ici, suivre des cours. Il n'y avait pas besoin d'être inscrit, il n'y avait pas besoin de carte comme c'est le cas aujourd'hui. On pouvait venir apprendre et les portes étaient totalement ouverte au 19e siècle, et ce temple-là, cette université a été créée, elle, au 13e siècle.
D'où ce symbole, d'où ce lieu choisi pour cet hommage national, Michaël Darmon.
Oui, et qui est aussi d'ailleurs une synthèse entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, puisqu'il y a des sièges administratifs du rectorat. C'était un ancien lieu, effectivement, où les collégiens pouvaient venir, vous le disiez à l'instant, Laure, venir en toute liberté pour s'instruire. C'est le joyau de ce quartier qui est ensuite devenu, selon ce qu'on a appelé le quartier latin, dédié aux humanités, à l'instruction, aux arts, à la liberté de parole. Et évidemment, on comprend, quand on prend le temps effectivement de s'immerger à nouveau dans l'histoire de ce lieu, on comprend la force de ce moment ce soir.
On imagine l'animation, le bruit qu'il règne habituellement dans cette cour d'honneur et qui tranche avec ce silence très lourd, très très pesant en ce moment.
Ce silence, c'est vrai, et dans chaque centimètre de cette université, il y a le savoir. Imaginez qu'il y a un endroit ici à la Sorbonne où est gravé dans la rampe le symbole de l'université, la main de la connaissance avec les palmes académiques.
On entend à l'instant la musique de U2 qui résonne. One Love, c'est une musique qui a été choisie spécialement par la famille de Samuel Paty. Debout ce soir dans cette cour d'honneur de la Sorbonne pour saluer l'arrivée du cercueil de Samuel Paty porté par les gardes républicains avec cette musique que vous entendez qui a été choisie par la famille de l'enseignant One de U2. L'amour est une loi divine. Les paroles sont de circonstances hein, et l'émotion est palpable. Vous entendez les pas des gardes républicains. On a vu quelques larmes au coin des yeux de toutes ces personnalités. Le cercueil est désormais posé au milieu de la cour d'honneur. Repose dessus un coussin rouge avec la Légion d'honneur qui a donc été remise à titre posthume tout à l'heure à Samuel Paty par Emmanuel Macron lors de cette cérémonie qui s'est déroulée un peu avant l'arrivée du cercueil dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Ce moment très très intense hein, où ces personnalités restent debout avec toujours ce silence et on attend donc maintenant les personnes qui vont se succéder pour des lectures, toujours selon le souhait de la famille de Samuel Paty. La première d'entre elles va être lue dans un tout instant, on va l'écouter ensemble par un enseignant, un ami de Samuel Paty. On imagine la difficulté pour lui de l'exercice. C'est une lecture a priori du texte aux instituteurs et aux institutrices de Jean Jaurès. Voilà ce monsieur qui s'installe et que nous allons écouter ensemble.
Nous te saluons, camarade. Nous, tes amis, tes frères et sœurs de classe préparatoire, de l'université, des premiers pas dans le métier de professeur d'histoire et de géographie. Le 15 janvier 1888, dans la dépêche de Toulouse, Jean Jaurès écrit aux instituteurs et institutrices quelques conseils pour que les élèves apprennent à être autonomes, à réfléchir, à se forger une opinion, conseils auxquels, Samuel, tu as été fidèle. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont français. Ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confèrent, quels devoirs leur imposent la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères, l'égoïsme aux formes multiples. Il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme, en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Car c'est par lui que nous triompherons du mal, de l'obscurité et de la mort. Sachant bien lire, l'écolier qui est très curieux aurait bien vite, avec 7 ou 8 livres choisis, une idée très générale, il est vrai, mais très haute, de l'espèce humaine, de la structure du monde, de l'histoire propre de la Terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l'humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l'esprit. Il n'est pas nécessaire qu'il dise beaucoup, qu'il fasse de longues leçons. Il suffit que tous les détails qu'il leur donnera concourent nettement à un tableau d'ensemble. De ce que l'on sait, de l'homme primitif à l'homme d'aujourd'hui, quelle prodigieuse transformation. Et comme il est aisé à l'instituteur et au professeur, en quelques traits, de faire sentir à l'enfant l'effort inouï de la pensée humaine. Je dis donc au maître et au professeur, pour me résumer, lorsque d'une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond et lorsque d'autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé de grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez sans peine, en quelques années, fait œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet. Et ce jour-là, bien des choses changeront. Adieu, Samuel.
Voilà pour ce texte, hommage à Samuel Paty, lu par l'un de ses amis, Christophe Capuano, qui a réussi à ne pas se laisser emporter par l'émotion. Une première lecture, alors que déjà une autre personne, une autre enseignante, visiblement, s'approche du pupitre et devrait maintenant lire un poème écrit spécialement pour Samuel Paty par le chanteur engagé Gauvin Serre. C'est un poème intitulé « À Samuel ».
À Samuel Paty. Paraît qu'on s'habitue aux larmes de la nation. Ce matin, on s'est tu sous le coup de l'émotion. Paraît qu'on s'habitue quand l'infâme est légion. Tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Paraît qu'on s'habitue à défendre à tout prix les 3 mots qu'on a lus au fronton des mairies. Paraît qu'on s'habitue quand on manque de savoir. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. Paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie. Mais jamais on n'y a cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, On ne s'habitue pas.
À Samuel, lu ce soir par Marie Cuirot, professeure d'histoire géo au lycée Jules Ferry à Paris. Poème donc qui a été spécialement écrit pour Samuel Paty par le chanteur engagé Gauvin Serre, qui a été publié sur les réseaux sociaux, qui a visiblement beaucoup touché les proches de l'enseignant puisqu'ils ont souhaité qu'il soit lu ce soir. On va maintenant écouter la dernière prise de parole avant celle d'Emmanuel Macron. C'est un élève qui va maintenant lire la fameuse lettre d'Albert Camus, une élève. En l'occurrence, lettre d'Albert
lettre
Camus,
de Camus à son instituteur, Louis Germain, écrite le jour où il a reçu le prix Nobel de littérature. 19 novembre 1957. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché, ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissante élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Albert Camus.
Dahlia, élève au lycée Massillon de Paris, qui a donc lu cette lettre d'Albert Camus à son instituteur Louis Germain, qu'il avait écrit peu après avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'est vraiment beaucoup d'émotion, cette cérémonie. C'est le pouvoir des mots. Il n'y a pas de commentaire, en fait. On a l'impression que par ces trois textes, tout a été dit, ou presque, et on ne connaît pas Samuel Paty, mais on imagine qu'il aurait aimé entendre ces mots, l'union entre les élèves et les enseignants. Les mots que l'on attend maintenant, ce sont ceux du président de la République, Emmanuel Macron, qui devrait prendre la parole d'ici quelques instants, Michaël Darmon.
Oui, effectivement, on attend son discours qui est prévu pour durer une quinzaine, vingtaine de minutes. Et on va voir comment, effectivement, il va à la fois s'adresser à la mémoire et raconter à la mémoire de Samuel Paty, mais également s'adresser à ses enseignants, qui attendent également beaucoup de la parole du président de la République ce soir, parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent abandonnés. Ils le disent de plus en plus, ils l'ont souvent dit sans avoir été écoutés. Aujourd'hui, à la faveur de cet événement ignoble et terrible, il le dit
de plus
en plus fort.
Le chef de l'État qui s'installe en ce moment, Michaël Darmon, au pupitre dans cette cour d'honneur de la Sorbonne pour prononcer à son tour son discours hommage à Samuel Paty. On l'écoute.
Mesdames, Messieurs, ce soir, je n'aurai pas de mots pour évoquer la lutte contre l'islamisme politique, radical, qui mène jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas. De nom, eux, n'en ont même plus. Ce soir, je ne parlerai pas davantage de l'indispensable unité que toutes les Françaises et tous les Français ressentent. Elle est précieuse et oblige tous les responsables à s'exprimer avec justesse et à agir avec exigence. Non. Ce soir, je veux parler de votre fils. Je veux parler de votre frère, de votre oncle, de celui que vous avez aimé, de ton père. Ce soir, je veux parler de votre collègue, de votre professeur, tombé parce qu'il avait fait le choix d'enseigner, assassiné parce qu'il avait décidé d'apprendre à ses élèves à devenir citoyens, apprendre les devoirs pour les remplir, apprendre les libertés pour les exercer. Ce soir, je veux vous parler de Samuel Paty. Samuel Paty aimait les livres, le savoir, plus que tout. Son appartement était une bibliothèque, ses plus beaux cadeaux, des livres pour apprendre. Il aimait les livres pour transmettre à ses élèves comme à ses proches la passion de la connaissance, le goût de la liberté. Après avoir étudié l'histoire à Lyon et avoir envisagé devenir chercheur, il avait emprunté la voie tracée par vous, ses parents, instituteur et directeur d'école à Moulins, en devenant chercheur en pédagogie, comme il aimait à se définir, en devenant professeur. Aussi, ne pouvait-on trouver meilleur endroit que la Sorbonne, notre lieu de savoir universel depuis plus de 8 siècles, le lieu de l'humanisme, pour que la nation puisse lui rendre cet hommage. Samuel Paty aimait passionnément enseigner, et il le fit si bien, dans plusieurs collèges et lycées, jusqu'à celui de Conflans-Sainte-Honorine. Nous avons tous ancré dans nos cœurs, dans nos mémoires, le souvenir d'un professeur qui a changé le cours de notre existence. Vous savez, cet instituteur qui nous a appris à lire, à compter, à nous faire confiance. Cet enseignant qui ne nous a pas seulement appris un savoir, mais nous a ouvert un chemin par un livre, un regard, un instant passé par sa considération. Samuel Paty était de cela, de ces professeurs que l'on n'oublie pas, de ces passionnés capables de passer des nuits à apprendre l'histoire des religions pour mieux comprendre ses élèves, leurs croyances, de ces humbles qui se remettaient 1000 fois en question, comme pour ce cours sur la liberté d'expression et la liberté de conscience qu'il préparait depuis juillet, encore l'été dernier, à Moulins, à vos côtés, et des doutes qu'il partageait par exigence, par délicatesse. Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Celui qui montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation. Celui qui s'était donné pour tâche de faire des républicains. Alors reviennent comme en écho les mots de Ferdinand Buisson. « Pour faire un républicain, écrivait-il, il faut prendre l'être humain si petit et si humble qu'il soit et lui donner l'idée qu'il faut penser par lui-même, qu'il ne doit ni foi ni obéissance à personne, que c'est à lui de chercher la vérité et non pas à la recevoir toute faite d'un maître, d'un directeur, d'un chef, quel qu'il soit. Faire des républicains. C'était le combat de Samuel Paty. Et si cette tâche, aujourd'hui, peut paraître titanesque, notamment là où la violence, l'intimidation, parfois la résignation, prennent le dessus, elle est plus essentielle, plus actuelle que jamais. Ici, en France. Nous aimons notre nation, sa géographie, ses paysages et son histoire, sa culture et ses métamorphoses, son esprit et son cœur. Et nous voulons l'enseigner à tous nos enfants. Ici, en France, nous aimons le projet tout à la fois terrien et universel que porte la République, son ordre et ses promesses, chaque jour recommencées. Alors oui, dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée, nous redonnerons aux professeurs le pouvoir de faire des républicains, la place et l'autorité qui leur reviennent. Nous les formerons, les considérerons comme il se doit, nous les soutiendrons, nous les protégerons autant qu'il le faudra, dans l'école comme hors de l'école. Les pressions, l'abus d'ignorance et d'obéissance que certains voudraient instaurer n'ont pas leur place chez nous. Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose, avait-il dit un jour, comme par prescience. Alors, pourquoi Samuel fut-il tué? Pourquoi? Vendredi soir, j'ai d'abord cru à la folie aléatoire, à l'arbitraire absurde. Une victime de plus du terrorisme gratuit. Après tout, il n'était pas la cible principale des islamistes. Il ne faisait qu'enseigner. Il n'était pas l'ennemi de la religion dont ils se servent. Il avait lu le Coran. Il respectait ses élèves, quelles que soient leurs croyances. Il s'intéressait à la civilisation musulmane. Non. Tout au contraire. Samuel Paty fut tué précisément pour tout cela. Parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Eux séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que des citoyens. Eux se repaissent de l'ignorance, lui croyait dans le savoir. Eux cultivent la haine de l'autre. Lui voulait sans cesse en voir le visage, découvrir les richesses de l'altérité. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays, le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre. Car nous continuerons, professeur. Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. Nous offrirons toutes les chances que la République doit à toute sa jeunesse, sans discrimination aucune. Nous continuerons, professeur. Avec tous les instituteurs et professeurs de France, nous enseignerons l'histoire, ses gloires comme ses vicissitudes. Nous ferons découvrir la littérature, la musique, toutes les œuvres de l'âme et de l'esprit. Nous aimerons de toutes nos forces le débat, les arguments raisonnables, les persuasions aimables. Nous aimerons la science et ses controverses, comme vous. Nous cultiverons la tolérance, comme vous. Nous chercherons à comprendre sans relâche et à comprendre encore davantage ceux-là qu'on voudrait éloigner de nous. Nous apprendrons l'humour, la distance. Nous rappellerons que nos libertés ne tiennent que par la fin de la haine et de la violence, par le respect de l'autre. Nous continuerons, professeur. Et tout au long de leur vie, les centaines de jeunes gens que vous avez formés exerceront cet esprit critique que vous leur avez appris. Peut-être certains d'entre eux deviendront-ils enseignants à leur tour. Alors, ils formeront des jeunes citoyens à leur tour. Ils feront aimer la République. Ils feront comprendre notre nation, nos valeurs, notre Europe. Dans une chaîne des temps qui ne s'arrêtera pas. Nous continuerons, oui. Ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce que nous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais. Vive la République. Vive la France.
Voilà donc pour ce discours d'Emmanuel Macron que l'on vient de suivre en direct sur Europe 1. Dans quelques instants, la Marseillaise devrait maintenant résonner dans cette cour d'honneur de la Sorbonne. On va rester ensemble en direct pour vivre ce moment très fort. On reviendra évidemment sur ce discours qui a été extrêmement puissant du chef de l'État. C'est un discours très très fort. Je ne sais pas si on avait déjà entendu Emmanuel Macron aussi déterminé, aussi en colère contre cet islamisme radical qu'il a vraiment nommé, qu'il a vraiment cité, contre lequel il déclare la guerre. On va écouter ensemble la Marseillaise. Dans un tout petit instant, la Marseillaise dans la cour d'honneur de la Sorbonne. D'abord, cette minute de silence, on l'entend avec un garde républicain qui tient le portrait de Samuel Paty, ce portrait dans lequel, en noir et blanc, dans lequel on le voit au milieu de sa classe, en train d'enseigner, ce portrait qui dit tout de lui, sa bienveillance, son engagement, et la Marseillaise. sur cette Marseillaise qui vient de résonner dans la cour d'honneur de la Sorbonne, le président de la République qui est toujours recueilli au milieu, devant le cercueil de Samuel Paty, qui va maintenant quitter la cour d'honneur. Est-ce qu'on peut dire un mot, peut-être, Laure d'Autriche, de ce cadre, encore une fois, très solennel, de cette Marseillaise que l'on vient d'entendre, et puis de cette symphonie de Mozart qui devrait résonner d'ici quelques instants pour accompagner le cercueil de Samuel Paty.
Oui, on vient d'entendre ici la version de Berlioz, d'Hector Berlioz, de cette Marseillaise qui est souvent jouée lors des cérémonies officielles aux Invalides ou ailleurs. Et effectivement, le cercueil bientôt va quitter la cour d'honneur de la Sorbonne sur la musique de Mozart, la troisième symphonie de Mozart. Et c'est symbolique aussi, c'est intéressant d'avoir choisi cette œuvre. Alors Mozart l'a écrite lorsqu'il avait 9 ans. Il y a un doute sur l'idée que c'est lui qui est bien l'auteur de cette symphonie. Il se pourrait que ce soit un autre compositeur, mais peu importe, il était tout à fait capable d'écrire cette œuvre-là. Et vous allez l'entendre, elle correspond tout à fait bien à ce cadre.
Là.
Quelque chose de lumineux, c'est en ce moment le divertimento pour cordes de Mozart. On entend chez Mozart, et j'imagine que c'est aussi la volonté de la famille et ici des organisateurs d'avoir choisi Mozart, la lumière chez Mozart. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'abattement total, et on entend ici dans ce divertimento pour cordes toujours une forme de lumière, et notamment dans les mouvements lents comme celui-ci qui est absolument poignant et que Mozart a composé à 16 ou 17 ans.
La France des Lumières, hein, a d'ailleurs rappelé Emmanuel Macron lors de son discours il y a quelques instants. Alors que le cercueil de Samuel Paty va maintenant quitter cette cour d'honneur de la Sorbonne, suivi de la famille, de l'enseignant et du chef de l'État, toujours accompagné donc par cet orchestre à cordes de la garde républicaine, avec les pas des gardes républicains que l'on entend. Et toujours ce garde républicain qui suit le cercueil en portant le portrait en noir et blanc de Samuel Paty, énormément d'émotions. Il y a également la Légion d'honneur, puisque vous savez qu'elle lui a été remise à titre posthume juste avant le début de cette cérémonie, dans l'amphithéâtre de la Sorbonne. Le cercueil qui s'apprête à quitter cette cour d'honneur de la Sorbonne. Président de la République qui s'avance lui aussi à la suite du cercueil de Samuel Paty. Liberté, égalité, fraternité, peut-on lire en lettres lumineuses écrites sur le fronton. Une Marianne également, toujours dans cette cour d'honneur de la Sorbonne. Le symbole est extrêmement fort. On pourrait rajouter laïcité aussi au vu du discours du chef de l'État tout à l'heure.
Et on peut penser aussi à tous ceux qui sont passés par là, par cette université, Jean-Paul Sartre, Pasteur, Marie Curie, ce symbole du savoir et cette université qui est aussi réputée dans le monde entier. Dans le monde entier, on connaît l'université de la Sorbonne.
Michael Darmon.
C'est vrai que le président a parlé à l'ombre de Victor Hugo, hein. On l'a vu effectivement dans cette cour de la Sorbonne, ce temple de l'humanisme. Et donc... En rappelant que Samuel Paty, effectivement, disait « Je voudrais que ma vie et ma mort servent à quelque chose, comme par prescience ». Et il a donc fait de lui, à partir de ce soir, le visage de la République, en prononçant effectivement ce serment de la Sorbonne. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, nous apprendrons l'humour, la distance, la science. Nous continuerons ce combat pour la liberté, pour la raison dont vous êtes le visage, parce qu'en France, les lumières ne s'éteignent jamais. Donc c'était effectivement à la fois un discours, comme c'était annoncé, à hauteur d'homme, pour Samuel Paty, mais également avec une résonance politique extrêmement forte,
très forte
dans la période que nous traversons.
Effectivement, avec toujours donc ce silence hein, qui résonne, enfin, si on peut dire, le silence qui résonne dans cette cour d'honneur de la Sorbonne. Jean-Louis Auduc, vous êtes ancien professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, vous êtes toujours avec nous, vous avez suivi ce discours d'Emmanuel Macron. Comment l'avez-vous trouvé ? Est-ce qu'il a été à la hauteur, le président ?
Parce que moi, je l'ai ressenti comme une relégitimation du métier enseignant, des missions de l'école. Et je pense que tout ce qu'on a entendu là, c'est pour dire aux familles, l'école, elle doit former l'homme, la femme, le travailleur, la travailleuse, le citoyen, la citoyenne de demain. Je viens de prendre ce qu'était le message du Conseil national de la résistance sur la mission de l'école et je l'ai retrouvé. Deuxièmement, moi j'ai bien aimé le texte de Jean Jaurès.
On
aurait pu le poursuivre jusqu'au
bout
parce qu'il se termine par une phrase qui pour moi résume bien le discours d'Emmanuel Macron. Jean Jaurès dans cette lettre l'a terminé ainsi. Il faut que professeurs, instituteurs aident tous les élèves à mieux comprendre le monde pour ne pas le subir.
Merci
et je
Jean.
Trouve que cette phrase est extrêmement importante et résume bien le discours d'Emmanuel Macron.
Merci Jean-Louis Auduc. En tout cas, on a été tous extrêmement touchés ici en studio et la foule qui s'était massée à l'extérieur de la Sorbonne aussi, on l'imagine, on a entendu tout à l'heure ces applaudissements au moment où le cercueil quittait la cour d'honneur. Vous êtes Pierre Herbulot à l'extérieur de la Sorbonne hein.
Oui, énormément d'émotions ici, vous vous en doutez, pendant tout le long de cette cérémonie où des centaines de personnes s'étaient massées ici, place de la Sorbonne et un petit peu plus loin, place du Panthéon, pour finalement se joindre à l'hommage de la nation. Effectivement, ces applaudissements, vous les avez entendus pendant à la fin du discours d'Emmanuel Macron, à la fin des trois textes lus par des amis, collègues, par un collégien, et puis également à l'arrivée de Samuel Paty, lorsque son cercueil est entré dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Les applaudissements ont duré pendant plusieurs minutes, énormément d'émotions. Il y avait des passants, des personnes qui étaient venues comme ça, qui écoutaient la tête baissée vers le sol, profondément touchées par ce qui se passait. Il y a ici des drapeaux français, des messages de soutien, des « je suis Samuel, je suis professeur ». Et donc, je vous le disais, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions dans tout le long de cette cérémonie.
Merci beaucoup Pierre Herbulot. Émotion que l'on a ressentie hein, de façon très intense ici également en studio. On va retrouver maintenant Jean-Rémy Baudeau qui se trouve à l'intérieur de cette cour d'honneur de la Sorbonne où les invités commencent à partir, Jean-Rémy. Hein.
Oui, petit à petit, les 400 invités politiques, associatifs, religieux commencent à quitter cette cour de la Sorbonne. Et Pierre Herbulot en parlait il y a quelques instants de ce qui se passait à l'extérieur. Et je voudrais juste vous donner la sensation qu'on avait ici, le recueillement qu'il y a eu dans cette cour de la Sorbonne tout au long de cette cérémonie. Les mots du président par exemple, a débuté son discours en disant qu'il n'était pas là pour évoquer l'islamisme politique, pour parler des terroristes. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré le nom de Samuel Paty au barbare. Il a commencé son discours en disant ça et ensuite en parlant uniquement en fait de Samuel Paty, de son engagement de prof, de l'importance des enseignants dans notre société française, dans notre vie. Mais juste pour vous parler de ce décalage, c'est qu'il y avait justement un décalage avec les écrans géants qui étaient dehors. Et à plusieurs moments, il y a eu des applaudissements, une clameur qui venait de l'extérieur et qui apportait un peu de réconfort dans cette émotion très, très palpable qu'on avait ici dans cette cour. Des applaudissements maintenant qui retentissent ici. Et puis un autre moment très intense, moment où le cercueil est rentré dans la cour de la Sorbonne, sur cette chanson de U2 et qui commence comme ça, Is it getting better? Est-ce que les choses vont mieux? C'était une interrogation de U2, de ce groupe irlandais, et finalement chacun ici avait peut-être la réponse, cherchait en tout cas peut-être la réponse, et d'une certaine manière, peut-être certains l'ont trouvé ce soir, mais Voilà, l'émotion en tout cas était très forte.
Et c'était effectivement l'un des temps forts de cette cérémonie. Merci Jean-Rémy Baudot, cérémonie que l'on a vécue ensemble avec vous. Et on va continuer, hein. On va se poser jusqu'à 21h, prendre le temps de revenir sur ce moment très important, ce temps très fort de notre démocratie, avec notamment, on va revenir sur ce discours extrêmement puissant du chef de l'État. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale, Isabelle Millet.
Il est 20h16, vous êtes sur Europe 1, merci à vous. Nous venons de vivre en direct un moment très fort, un moment très émouvant sur Europe 1. Cet hommage national rendu à Samuel Paty à la Sorbonne et le discours d'Emmanuel Macron. On poursuit ensemble jusqu'à 21h cette édition spéciale et je vous propose qu'on réécoute tout d'abord un extrait de ce discours très fort du chef de l'État.
Samuel Paty incarnait au fond le professeur dont rêvait Jaurès. Dans cette lettre aux instituteurs qui vient d'être lue, la fermeté unie à la tendresse. Celui qui montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect, donne à voir ce qu'est la civilisation. Celui qui s'était donné pour tâche de faire des républicains. Parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais.
Samuel Paty incarnait le prof dont rêvait Jaurès, Virginie Riva. Jaurès, fervent défenseur de la laïcité, là encore, tout un symbole hein, dans ce discours d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est un symbole qui n'est vraiment pas laissé au hasard parce que Jaurès incarne une laïcité certes très ferme, mais pas conquérante, qui n'est pas un formatage du citoyen à la République. C'est exactement le sens du discours d'Emmanuel Macron. On lui dit souvent qu'il n'a pas de grand discours sur la laïcité. Là, c'est le professeur qui est fermeté et tendresse. C'est exactement ce qu'incarnait Samuel Paty, un homme qui a voulu enseigner les caricatures dans son cours de liberté d'expression, mais qui a pris une précaution, une tendresse qui était de dire « si vous êtes choqué, vous pouvez sortir de la salle ». Cette laïcité ferme dans ses principes, Michael l'a rappelé, le président dit « oui, nous allons montrer les caricatures ». Mais cette tendresse qui est celle de Jaurès, qui est celle de Samuel Paty, Jaurès et Paty, tous deux assassinés. Jean Jaurès, 1914, pacifiste par un nationaliste. Samuel Paty, assassiné par un terroriste. C'est vraiment ce discours très fort d'une laïcité qu'on adjective. Le président ne veut pas qu'on l'adjective. On parle de laïcité ouverte, fermée, bienveillante. Non, lui sort du débat. Et il nous propose cette formule d'une laïcité ferme mais tendre. Je pense que c'est effectivement un passage très important du discours d'Emmanuel Macron.
C'est l'un des passages effectivement très forts de ce discours. On va y revenir évidemment avec vous, Michael Darmon, mais je voudrais d'abord qu'on retrouve Pierre Herbulot qui est à l'extérieur de la Sorbonne, où le président, me semble-t-il, est allé saluer quelques personnes qui étaient venues assister à cet hommage, donc à l'extérieur devant des écrans géants. Hein.
Oui, absolument. Il est plutôt du côté de la place du Panthéon. Moi, je suis place de la Sorbonne où la place est en train de se vider tout doucement, où des centaines de personnes, de Français, des étudiants, des professeurs, des parents se sont rassemblés ici depuis plusieurs heures hein, pour suivre cet hommage national, pour participer un petit peu par leur présence à cet hommage de la nation à Samuel Paty, une foule qui a ressenti énormément d'émotions tout au long de la cérémonie, à la fin du discours d'Emmanuel Macron, à la lecture de tous ces textes, pendant la Marseillaise aussi, des applaudissements à l'entrée du cercueil, à l'arrivée du cercueil de Samuel Paty dans la cours de la Sorbonne, des centaines de Français qui tenaient finalement à participer, à apporter leur pierre à l'édifice qu'on entendait jusque dans la cour d'honneur de la Sorbonne où se tenait la cérémonie. Jean-Rémy Baudol vous le disait tout à l'heure, ça a un petit peu réchauffé les cœurs ici. Bien sûr, tout le monde est très triste, mais il y a une forme de solidarité, de rassemblement ici, en tout cas aux abords de la Sorbonne.
Merci beaucoup Pierre Herbulot en direct. Michael Darmon, je voudrais qu'on revienne sur le fond de ce discours avec vous, chef du service politique d'Europe 1. Comme prévu, c'est un discours très très puissant hein, qu'a prononcé Emmanuel Macron pour parler avant tout de l'homme et de son engagement, l'enseignant tombé pour avoir fait le choix de ce métier d'enseignant. Un discours avec cette volonté du chef de l'État aussi de briser l'islamisme radical. Hein.
Oui, effectivement, tout d'abord, avant cela, dans cette volonté qu'il poursuit depuis le début de son quinquennat, de poursuivre, je dirais, un peu sa fabrique des héros contemporains. Il en a encore prononcé le terme en disant « c'est un héros tranquille ». Tel qu'on voudrait effectivement qu'il ressemble à beaucoup de nos professeurs et tel qu'aujourd'hui il veut projeter donc, dans la manière d'enseigner. Il avait également parlé du colonel Beltrame qui avait été assassiné, tué, abattu pendant la prise d'otage à Trèbes, également comme un héros de la résistance. Et donc Emmanuel Macron, à chaque moment, qui sont toujours des moments terribles, qui sont toujours des moments d'émotion nationale, qui sont malheureusement des moments tristes collectivement, et bien sûr individuellement, eh bien il se saisit de ce moment-là pour continuer à sculpter ce qu'il a posé depuis le début de son mandat en disant « la France a besoin de nouveaux héros ». Et c'est ainsi qu'il veut tenter de créer une nouvelle cohésion nationale parce qu'il a identifié, diagnostiqué dès le début de sa candidature, de sa campagne, puis après de sa prise de fonction, qu'il y avait ce souci en France de comment se retrouver, comment faire nation. Et au-delà de cette démarche-là. Effectivement, il a commencé par antiphrase en disant je ne parlerai pas des terroristes, mais il en a parlé. Je ne parlerai pas de l'action que je mène, mais il en a parlé. Oui. Bien évidemment, il a qualifié les actes barbares et lâches
ceux de qui ont ceux livré qui ont permis, son nom aux barbares. Oui.
Voilà, cet attentat d'arrivée qui ont livré leurs professeurs. Vous vous rendez compte ? On a effectivement eu un autre moment très puissant dans cette cérémonie lorsqu'on a entendu la lettre effectivement de l'instituteur adressée à l'instituteur de la part donc d'Albert Camus à son instituteur Louis Germain qui était venu supplier sa famille de ne pas le retirer de l'école, de l'aider à faire tous ses examens pour le baccalauréat. Et la vie d'Albert Camus a basculé à partir de ce jour-là. Il en a parlé quand il a effectivement été nommé au prix Nobel. Et cette fois-ci, regardez, des années plus tard, effectivement, la vie de ce professeur a basculé à cause de ses élèves parce qu'ils l'ont donné à leur bourreau.
La fermeté unie à la tendresse, faire des républicains, c'était le combat de Samuel Paty. Effectivement, un discours très très fort. Il y a eu d'autres temps forts hein, dans cet hommage, notamment lorsque cette professeure d'histoire géo a lu ce texte. C'est un poème hein, du chanteur Gauvin Serre, un poème intitulé « À Samuel », qui écrit notamment « L'innocence qu'on tue, on ne s'habitue pas ». C'est ce que dit ce texte qui a dû, j'imagine, particulièrement vous bouleverser. Jean-Louis Auduc, je rappelle que vous êtes ancien professeur d'histoire géo et d'éducation civique.
Et formateur d'enseignants. Moi, ce que je retiens de la cérémonie, je vais vous dire, tout à l'heure, quelqu'un évoquait l'isolement des enseignants. J'ai l'impression que le président de la République et la nation a dit ce soir, l'isolement doit changer de camp. La nation doit faire corps avec ses enseignants, avec son école. Et les barbares, les islamistes doivent être isolés. Et c'est un message très fort par rapport à la nation. C'est un message très fort par rapport au métier enseignant. Il y a aussi un autre moment quand on évoque Jaurès. Dans le même texte que vous citiez, Jaurès dit « L'enseignant doit être impartial ». Et pas seulement neutre, il n'y a que le néant qu'il soit neutre, il doit porter les valeurs de la République et les faire s'approprier à ses élèves. C'est aussi la reconnaissance que les enseignants ont à porter les valeurs de la République, quelle que soit leur discipline, quel que soit le lieu où on est. Un enseignant, c'est un morceau de la République, une école. C'est un enjeu. Je trouve que ce message est très, très fort par rapport à une population qui, à des moments, doutait de l'école par rapport à ça. Et c'est un message très fort qui est venu là conforter effectivement le choc, l'horreur de ce qu'a été un enseignant abattu devant sa classe. Et je dirais avec des élèves qui ont accepté pour de l'argent de l'indiquer. Pour moi, c'est un choc de voir des jeunes de 13, 14 ans, pour une somme d'argent, dénoncer un autre. Je pense que là, il y a un vrai enjeu de civisme, non seulement avec les élèves, mais avec tous les parents et la société.
Le président qui a eu donc les mots qu'il fallait ce soir. Emmanuel Macron qui vient de quitter ce quartier de la Sorbonne. On vous retrouve devant la Sorbonne, Jean-Rémy Baudot.
Oui, Emmanuel Macron qui, donc, il y a quelques instants, a quitté d'abord la cour de la Sorbonne, la cour d'honneur de la Sorbonne, avant eh bien, de rejoindre l'extérieur pour eh bien, marcher quelques instants, quelques minutes dans ce quartier latin, symbole eh bien, du savoir avec ses très nombreuses universités, dont effectivement l'université de la Sorbonne. Il est allé à la rencontre de plusieurs Français, dont certains qui, étaient, eh bien, qui ont suivi la cérémonie devant, devant les écrans géants qui étaient à l'extérieur. On n'a pas la teneur des propos que le président a pu avoir avec, avec ces Français à l'extérieur. On imagine qu'évidemment, ils ont dû échanger sur, sur la cérémonie, sur l'émotion de la mort de Samuel Paty. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'Emmanuel Macron, il n'arrive pas vraiment à ne pas aller au-devant, malgré la situation sanitaire, d'ailleurs, petite parenthèse, mais d'aller voir les Français qui sont à l'extérieur. Il a ensuite rejoint son véhicule. Mais ce qui est certain et ce qui est très intéressant, et je vous en parlais tout à l'heure, c'était eh bien, ce qui s'est passé dans la cour, tout ce recueillement, et puis ce qui s'est passé dehors. Et c'était peut-être pour aller un petit peu communier avec les Français qui étaient dehors, qui regardaient sur les écrans géants la cérémonie. C'est probablement pour ça que le président a voulu eh bien, faire quelques pas, marcher un petit peu dans ce quartier latin pour aller à la rencontre des personnes qui avaient suivi la cérémonie.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudou. On poursuit évidemment cette édition spéciale. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1, édition spéciale. Isabelle Millet.
Il est 20h31 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 jusqu'à 21h pour cette édition spéciale suite à cet hommage national que l'on vient de vivre en direct. Hommage au professeur Samuel Paty. On va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé, ces temps forts, ce discours d'Emmanuel Macron très puissant. Je voudrais qu'on écoute d'abord un extrait de cette intervention du président de la République tout à l'heure.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes. Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays, le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre.
Voilà pour cet extrait du discours prononcé ce soir dans la cour d'honneur de la Sorbonne par Emmanuel Macron. Nous sommes en ligne avec Mustapha Lakhli, qui est professeur d'histoire géo à Tournon-sur-Rhône et qui est également cadre de la mosquée de Valence. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct.
Bonsoir.
Vous avez, si je puis dire, cette double casquette d'enseignant et en même temps de musulman pratiquant. Ce sont des mots très très forts qu'on vient d'entendre de la part du chef de l'État qui a rendu hommage à l'un de vos collègues qui a été tué par ceux qui dévoient votre religion.
Oui, oui, oui. En écoutant les propos d'Emmanuel Macron, mais aussi les propos de ses collègues précédemment, je me suis demandé pourquoi en fait j'avais choisi ce métier. Et je me suis souvenu de tous les professeurs qui avaient jalonné ma scolarité et qui m'ont donné le goût de l'enseignement. Et voilà, c'était un peu ce ressenti que j'avais sur le moment quand j'ai écouté ce qui a été dit. Alors pour revenir sur ce qu'a dit le président, effectivement, il a dit des choses très fortes. Il a opposé la bêtise, le mensonge, l'amalgame, la haine des terroristes qui cultivent la haine, à la science, à la controverse, à la tolérance que nous, on enseigne dans nos cours.
Vous trouvez qu'il a eu les mots justes, le chef de l'État ?
Oui, alors, le problème, si vous voulez, moi, j'ai pas de problème avec les mots. Quand il dit qu'il faut redonner aux professeurs leur autorité, que l'État va les protéger, etc., évidemment que c'est des mots qui sont importants. Mais j'ai peur, et ma crainte, comme à mon avis des millions de collègues, enfin des centaines de milliers de collègues, pardon, c'est que cette promesse-là qui est faite aujourd'hui, elle retombe dans 3 semaines, 1 mois, lorsque les actualités auront chassé celle d'aujourd'hui. Il y a quelques années, un remerciement de la nation pour les policiers qui ont été déclarés comme étant, si vous voulez, les protecteurs de la nation, qui ont été portés portait notamment, je pense à la chanson de Renaud qui disait qu'il voulait embrasser un flic.
Ouais.
Et puis derrière, je voilà. Moi, je veux pas, comment dire, je veux pas lui j'attends, si vous voulez. J'attends. Ma crainte, c'est que les beaux discours d'aujourd'hui, suite à un drame, ne soient pas suivis des faits. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va redonner au prof l'autorité? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va donner au prof la protection qu'il mérite? Alors évidemment qu'on ne pourra pas mettre un policier derrière chaque professeur, et puis de toute façon, c'est inutile. Mais vous savez, le métier d'enseignant, il est difficile, de plus en plus difficile. Et malgré ça, chaque année, vous avez des étudiants qui, peut-être comme moi d'ailleurs, à qui on a transmis le goût de l'enseignement parce qu'ils ont rencontré des professeurs exceptionnels. Et moi, j'ai bénéficié de cette chance-là. Je me rappelle très bien de mon professeur de primaire en CM1 dans une école de quartier qui a dit à ses élèves, dont je faisais partie, « Vous êtes français ». Et pour nous, c'était quelque chose d'assez... C'est assez bizarre que quelqu'un nous dise « vous êtes français » parce que dans un collège de quartier où la majorité des élèves sont d'origine étrangère, il nous rappelait notre attachement à la nation, c'est quelque chose de très important. Et par la suite, en terminale, je repense aussi à ma prof d'histoire qui nous a fait des cours fabuleux. Et quand j'écoute un peu, quand je me renseigne un petit peu sur le portrait de Samuel Paty, ben, j'apprends à le connaître, ça aurait pu être mon collègue, j'aurais pu faire les mêmes cours que lui, il me ressemble. Donc voilà, moi je suis... J'ai pas le problème... Enfin,
mais
le
vous
problème
auriez pu,
mots,
vous,
c'est pas le problème des mots.
Mustapha Lakhli, vous auriez pu, vous, faire un cours avec des caricatures de Charlie Hebdo?
Je sais pas, c'est une question difficile, j'ai pas la réponse. Pour expliquer un contexte, pour expliquer la liberté d'expression telle qu'elle existe en France... Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je n'accorde pas de valeur.
Vous avez des fonctions à la mosquée de Valence?
Oui, ben, je suis un fidèle parmi des centaines de fidèles. Et puis, j'aide aussi à donc il y a un imam qui fait les prêches. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'imams qui sont détachés et qui n'ont pas forcément une connaissance de la langue française qui est parfaite. Donc, on traduit les prêches en français. Et ce sont des discours qui sont tout à fait en phase avec ce qu'on appelle un discours républicain, si vous voulez. Nous sommes dans
mais vous n'êtes
dans
pas
les
sûr que vous auriez pu montrer ces caricatures de Charlie Hebdo dans l'une de vos
classes. Ça ne me dérange pas de les montrer. Peut-être que je les aurais montrées.
Peut-être.
Mais si vous voulez, oui, enfin, quand je dis peut-être, c'est que, si vous voulez, quand on enseigne, on a un choix pédagogique à faire et il est large. Et c'est pas, comment dire, votre question, je la trouve un peu piège. C'est-à-dire que quand je vous dis peut-être, c'est pas parce que j'ai pas envie ou parce que ça me dérange. C'est parce qu'on a un choix, une liberté pédagogique tellement large qu'il n'est pas nécessaire d'en passer par là.
Enfin, c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui quand même. Hein.
La question de quoi? De savoir si on peut montrer les caricatures?
Oui, si vous auriez montré ces caricatures, vous, en tant que musulman, croyant et pratiquant.
Tout le monde se pose cette question, je sais pas. Mais en tout cas, moi je me la pose pas parce qu'elle ne me dérange pas. Cette question ne me dérange pas.
On a compris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage ce soir sur Europe 1. Mustapha Lakhli, je rappelle que vous êtes professeur d'histoire-géographie à Tournon-sur-Rhône, également cadre à la mosquée de Valence. Michael Darmon, chef du service politique d'Europe 1, vous êtes toujours avec nous dans ce studio. On a entendu ce monsieur qui doutait que ces promesses d'Emmanuel Macron aillent finalement jusqu'au bout. Est-ce qu'elles risquent que de retomber? Est-ce qu'on a été ce soir dans une espèce de bulle?
On a aussi d'abord entendu, et je voudrais prendre quelques instants pour le signaler, on a aussi entendu la tristesse d'un Français musulman qui est obligé de porter ce fardeau de cette partie de cette religion qui ne lui ressemble pas et à chaque fois être obligé de se justifier. Ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est très fort parce qu'il a sincèrement, effectivement, donné ce sentiment effectivement de fardeau et de tristesse. Et puis, il a aussi donné ce moment, il a rappelé, il s'est inscrit dans cette cérémonie et dans l'émotion de cette cérémonie en expliquant comment il avait était convaincu qu'il fallait passer sa vie à enseigner et à transmettre les valeurs de la République. Alors après, effectivement, il le donne, ce sentiment que l'on entend depuis quelques jours, que la politique de la bougie, de l'hommage et de l'émotion a atteint ses limites. Il a parfaitement rappelé d'ailleurs qu'effectivement, ça a traversé combien de premières lignes décrétées à chaque événement. Ça a été les policiers, et puis ce sont les infirmières qu'on a déjà oubliées, qu'on a applaudies tous les jours à 20h pendant des mois. Et maintenant, ce sont des professeurs qu'on décrète, et des enseignants qu'on décrète être en première ligne, des héros de la République. Et ils ont raison, ils sont fondés à poser la question en disant « mais ça va durer combien de jours avant qu'on oublie ce que l'on nous dit ?» Et comment, effectivement, après, dans la politique publique, dans la manière, effectivement, de tenir le cap des budgets, des freins, des conservatismes, de ceux qui ne veulent pas changer les choses, eh bien, ça va pouvoir effectivement passer ce cap. Et on entend tout cela ce soir, et effectivement, on comprend dans quel contexte politique se trouve le président de la République. La bulle est terminée, la parenthèse donc va se refermer. Emmanuel Macron a fait quelque chose depuis quelques jours qu'il n'aime pas faire, agir vite,
ouais.
Agir sous la pression de l'opinion, sous la pression de l'opposition, sous la pression du calendrier. On est à 18 mois de l'élection présidentielle, il ne peut pas se louper sur ce sujet. Il le sait parfaitement bien et c'est la raison pour laquelle on voit bien que les jours qui viennent vont être cruciaux. Et ce que vient de dire ce soir, à l'instant, ce témoin résume effectivement le moment que l'on vit à la fois dans notre société et en ce qui concerne la vie politique.
Merci Michael Darmon. Je voudrais qu'on fasse un nouveau détour par la Sorbonne, puisque vous savez que parmi les invités dans cette cour d'honneur, lors de cette cérémonie, il y avait aussi des enseignants et des élèves, hein, quelques jeunes élèves, notamment Marie-France, c'est une prof de terminale qui est venue avec ses élèves justement et qui avait vraiment besoin d'être là, c'était très important pour elle.
Je l'ai trouvée bien sûr émouvante, hein, c'était le jour de l'émotion, c'était le lieu aussi, hein, de l'émotion et en même temps le discours d'Emmanuel Macron était particulièrement fort ce soir, façon dont il s'est adressé à Samuel Paty, professeur, et en même temps s'adressant à nous, donc c'était particulièrement émouvant. Et puis au-delà de l'émotion, il y avait ce sentiment effectivement de ne rien passer, de ne rien laisser passer, puis de continuer à se battre, de continuer à transmettre. On a tous pensé à lui, à Samuel, et puis à sa famille.
Est-ce qu'il y a une forme de fierté quand on voit l'hommage qui est rendu ici à la Sorbonne, hommage national ?
Oui, parce que mais il a fallu tout ça. Mais effectivement, c'est une reconnaissance que nous n'avons pas toujours, que nous n'avons plus, hein, depuis très très longtemps. Mais effectivement, il y a une certaine fierté, mais elle a un goût amer, cette fierté. Hein, elle a un goût âcre, on va dire.
Une fierté au goût amer, dit cette enseignante Marie-France, professeure de terminale, qui était donc avec quelques-uns de ses élèves tout à l'heure à la Sorbonne pour cet hommage national. Michael Darmon l'évoquait tout à l'heure, hein, il va falloir que toutes ces belles paroles du président de la République soient maintenant suivies d'effets, suivies d'actes concrets. On entend que les professeurs ont des doutes là-dessus, Virginie Riva. Hein.
Oui, parce qu'effectivement, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'autorité, à ces figures de professeurs, celles que remercie Camus, qui a incarné la promesse républicaine, qui fait qu'un écrivain, un petit enfant pauvre devenait un grand écrivain avec un Nobel. Aujourd'hui, cette figure d'autorité de l'instituteur et du professeur, elle est mise à mal. Alors, mise à mal pour quelle raison ? Certes, parce que toutes les figures d'autorité, effectivement, ont perdu en respect, mais aussi, ça passe par une forme de salaire, de revalorisation des salaires. C'est la raison pour laquelle le ministre de l'Éducation nationale a tenu à maintenir dès demain l'ouverture du Grenelle des professeurs qui va travailler sur cette question. Toute la question, c'est effectivement mobiliser aujourd'hui l'opinion. C'est ce que le ministre souhaite faire, un peu comme pour l'hôpital. Ce que disait Michael, on a applaudi et derrière, il y a eu un Ségur de la santé. Eh bien là, peut-être utiliser, entre guillemets, pas de manière utilitariste, mais utiliser cet événement tragique pour mobiliser l'opinion. Jean-Michel Blanquer souhaite le faire. Et peut-être pour réussir à terme à financer l'éducation nationale, à revaloriser ses salaires des professeurs. C'est un peu l'une des réponses matérielles qui feront que leur autorité dans la société seront renforcées, parce que Samuel Paty est mort pour une contestation d'enseignement par un parent. Et les professeurs sont à la fois fragilisés de par leur salaire et également de par cette contestation de leur parole d'autorité par les parents. que ça soit sur des questions religieuses, que ça soit parce que leurs enfants ne sont pas suffisamment accompagnés pour trouver un métier. L'école est mise à mal, l'école républicaine et ses missions sont questionnées par tous. Et il faut renforcer effectivement la figure de l'enseignant.
Et tenter de profiter de cet élan, de cette émotion que l'on a vécue aujourd'hui. Merci beaucoup Virginie Riva. On poursuit cette édition spéciale dans un tout petit instant sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1, édition spéciale, Isabelle Millet.
Il est 20h45, merci à vous d'être à l'écoute d'Europe 1. Nous venons de vivre ensemble, il y a quelques instants, un temps fort de notre démocratie, cet hommage national à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne, et notamment ce discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui a notamment insisté sur la lutte qu'il entend mener contre les islamistes.
Samuel Paty fut tué. Parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Eux séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que des citoyens. Eux se repaissent de l'ignorance, lui croyait dans le savoir. Eux cultivent la haine de l'autre. Lui voulait sans cesse en voir le visage, découvrir les richesses de l'altérité. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes.
Voilà pour un court extrait de ce discours d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Abdallah Zekri. Vous êtes délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
En direct ce soir sur Europe 1. Il cultive la haine de l'autre, dit le président de la République.
Oui, entièrement d'accord. Vous savez, j'ai écouté son message du début jusqu'à la fin. C'est un message émouvant qui vous donne des frissons. Des âmes sensibles, je pense qu'ils ont dû verser une larme. C'est franchement très, très profond. Et je ne suis pas d'accord du tout avec le premier intervenant qui est enseignant, qui dit, enfin, qui met en doute. Nous avons rencontré le ministre de l'Intérieur il n'y a pas longtemps, le président de la République, les responsables du CFCM. Et je pense que cette fois-ci, ils sont disposés à aller jusqu'au bout pour mettre fin à cette situation. Et nous les encourageons, en tant que Français de confession musulmane et responsables au niveau du culte, nous les encourageons à prendre des mesures immédiate, même si ça doit choquer, toute personne étrangère qui porte atteinte aux lois de la République et qui appelle à la haine, je suis désolé, elle doit quitter le territoire national et laisser les musulmans vivre en paix. On veut vivre en paix, on veut que ces assassins et ces criminels ne foutent la paix parce que nous sommes les premières victimes de ces criminels, des assassins qui se permettent d'égorger, de décapiter un enseignant parce qu'il a donné un cours. Et c'est la libre expression qu'on veut étouffer. Nous ne sommes pas du tout d'accord.
Vous pensez que tous les musulmans de France partagent votre analyse ?
Je peux vous assurer que la très grande partie partage cela. La très grande partie, parce qu'on a quand même, depuis, on a agi, réagi. Je monte demain soir à Paris. Vendredi, avec la mosquée de Paris, avec les responsables des cultes, nous allons déposer une gerbe. Devant l'école, devant le collège, pour sa mémoire. J'ai fait un appel également avec la mosquée de Paris pour que vendredi, dans toutes les mosquées de France, la prière du vendredi, la khutbah, comme on appelle, le prêche, soit oui. Uniquement réservé à ce professeur qui a été lâchement
assassiné. Avec quel message sera véhiculé lors de ces prêches de vendredi ?
Dénoncer le terrorisme, dire qu'on habite dans un pays qu'il faut respecter ses lois, qu'il faut respecter les valeurs de la République, halte aux criminels, les dénoncer, les mettre au banc des accusés et de ne plus les laisser agir.
Merci beaucoup Abdallah Zekri pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes délégué général du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Michael Darmon, le président a raison, dit ce soir Abdallah Zekri, il faut taper fort contre l'islamisme radical. Est-ce qu'on sait déjà quelles vont être les prochaines mesures qui pourraient être annoncées par le chef de l'État, sachant qu'il y en a déjà eu quelques-unes hein ?
Oui, effectivement, on a bien compris ce soir que, tout en prévenant dès le début qu'il ne reviendrait pas sur l'action engagée après l'attentat. Il a fait tout au long également de ce discours, il a consacré des moments où il a expliqué pourquoi il agissait ainsi en qualifiant une fois de plus ce terrorisme et cet hydre islamiste, comme il avait dit déjà au moment du colonel Beltrame. Dans les prochains moments, les prochaines mesures, eh bien, ce sera une accentuation de ce qui a déjà été mis sur la table avec les annonces de fermeture de mosquées, les intentions d'expulser, les fermetures d'associations, les dissolutions d'associations. Mais toute la difficulté sera bien sûr de pouvoir aussi contourner les freins, lever les freins juridiques, contourner les obstacles juridiques, parce que nous sommes en
qui
état
sont
de
nombreux,
droit,
ouais.
Et qu'à chaque fois, il y aura bien entendu des recours. Une des associations mises sur la sellette, la fameuse ONG Baraka City, a déjà gagné plusieurs fois des instructions, a obtenu des non-lieux, alors qu'elle est inquiétée par la justice. Donc tout cela prendra un certain temps. Or, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi une course contre la montre de la part engagée par le président de la République, parce qu'il y a l'agenda politique, parce qu'il y a le temps court qui prend le pas sur le temps long qu'il aime tellement toujours vanter. Mais maintenant, il y a l'opinion qui fait pression, l'opposition qui fait pression, l'agenda politique qui fait également pression. Et on voit bien également que, quelque part, il doit aussi préparer les esprits au fait que les chocs vont être durs, difficiles et durables. Il le dit en privé. Et ça, très certainement, on l'entendra ces prochains temps dans le discours présidentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut préparer les Français, un peu plus qu'il ne le fait maintenant, à une difficulté et à des confrontations qui vont prendre du temps. Parce qu'au fond, la phrase de l'année pour le président, ça sera « nous sommes en guerre ».
Ouais.
Vous ne pouvez pas imaginer que cette guerre qui était plutôt lyrique ou symbolique au début avec le virus, dans son discours, deviendrait
formes.
Maintenant, effectivement, arriverait sur un terrain beaucoup plus concret, celui de la lutte contre l'islamisme politique.
Jean-Louis Auduc, ancien professeur d'histoire-géographie et d'éducation civique, vous êtes d'accord avec cette analyse de Michaël Darmon ? C'est sur le temps long que ça va se jouer. Est-ce que les Français sont prêts à supporter ce temps long ?
Je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que pourtant ont abordé l'ensemble des enseignants du collège de Samuel Paty, c'est les réseaux sociaux vecteurs de haine. Parce que c'est un sujet extrêmement important et où, effectivement, les enseignants se sont sentis démunis. Et de ce point de vue-là, l'existence des réseaux sociaux pèse sur la laïcité de la manière suivante, c'est la confusion des espaces. Notre laïcité française, elle repose sur l'existence de plusieurs espaces. Un espace privé, particulier, intime, où la liberté d'expression est pleine et entière. Mais qu'est-ce que c'est l'intime pour un jeune aujourd'hui, pour des parents jeunes, quand il y a Snapchat, Facebook ou autre Instagram et où on a 8000, 10000 amis. Le second espace de la laïcité, c'est l'espace partagé, public, où effectivement je peux vendre des journaux religieux syndicales. Et le troisième espace qui est l'école, et je crois que c'est important de le réaffirmer, qui est un espace d'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas la somme des intérêts particuliers et je peux y mettre des interdits. Et cette vécue des espaces, avec effectivement ces espaces virtuels, c'est un énorme problème aujourd'hui dans le domaine éducatif et les valeurs de la République. Moi, j'attends beaucoup de lois là-dessus parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a encore sur les réseaux sociaux des messages de haine par rapport à Samuel Paty, des messages effectivement de gens qui mettent en avant leurs opinions personnelles, leurs convictions personnelles avant la loi de la République. Or, la valeur de la République, ce qui fait nation, c'est que nous acceptons la loi commune et qu'on met derrière nos opinions particulières et d'une certaine manière, l'école, elle enseigne des savoirs légitimés. Ça s'appelle les programmes scolaires et non pas la conviction personnelle de chaque enseignant. Il y a des choses fortes qui ont été réaffirmées, mais de ce point de vue-là, il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport au développement de réseaux sociaux vecteur de haine. Et aujourd'hui,
il a commencé déjà à le faire. Hein. Il y a eu des réunions avec les principaux opérateurs de ces réseaux sociaux.
Vous avez vu la réponse de ces opérateurs.
Oui, ça risque d'être compliqué. Effectivement, je vous voyais acquiescer en tout cas sur la question de la laïcité et des réseaux sociaux, Virginie Riva.
Alors, effectivement, je suis d'accord. La propagation funeste des réseaux sociaux, caisse de résonance de cette haine. On l'avait déjà vu au moment de la publication des caricatures, hein, puisqu'on a eu des ambassades brûlées à l'autre bout du globe en Afrique. Pour une caricature publiée au Danemark, on a eu des attentats sur notre sol en France. Donc on a une réaction mondiale, mondialisée. Exactement pareil pour Samuel Paty, où des gens en Algérie ont pu voir ces vidéos de
haine. Journal danois qui d'ailleurs ne va pas republier ces caricatures et trouve qu'il y a trop de risques. Hein.
Effectivement, beaucoup de sang est versé et c'est leur justification. La question derrière, les réseaux sociaux sont certes une caisse de résonance, mais il y a un problème de fond, vous le dites, c'est les caricatures. Les caricatures, on en a vu ce soir l'exemple à travers deux interventions de citoyens musulmans qui n'étaient pas d'accord entre eux. Cette question des caricatures et de l'islam et de la laïcité, elle n'est pas réglée. Pourquoi ? Parce qu'elle heurte encore des citoyens musulmans, de la même manière qu'elle heurterait des citoyens catholiques lorsque le pape est moqué, de la même manière qu'elle heurte des citoyens juifs sur un certain nombre de combats. La réalité, c'est que beaucoup de musulmans, effectivement, on pense que la laïcité qui est née contre l'Église catholique sous la Troisième République était une laïcité de combat. Il fallait sortir le prêtre de la citoyenneté. Le prêtre était celui qui murmurait à l'oreille des femmes ce qu'elles devaient voter lorsqu'elles ont eu le droit de vote. Cette liberté de conscience acquise dans le sang, dans les combats, pendant un siècle en France, les musulmans croient qu'elle est souvent destinée contre eux. Et effectivement, ce sont eux qui sont visés. Alors qu'en réalité, une histoire, un apprentissage apaisé de l'histoire de la laïcité, très tôt, comme on essaye de le faire à travers l'enseignement moral et civique, justement depuis le primaire, aiderait. Et peut-être faut-il une plus grande compréhension de cette histoire de la laïcité et une meilleure formation. Le Conseil des sages me le disait cet après-midi. Il faut que les profs soient au clair sur tous les principes qu'ils doivent transmettre.
Michaël Darmon.
Il y a effectivement, puisqu'on parle maintenant effectivement d'audace, cette capacité à pouvoir faire avancer les choses, j'ai quand même le sentiment que être capable de pouvoir inscrire dans un programme scolaire l'histoire du fait religieux serait quelque chose de très très nouveau. Mais installé comme tel, effectivement. Parce que dans une classe, quand par exemple des élèves ne savent pas que par exemple leur prénom Ibrahim signifie aussi Abraham, eh bien là, il pourrait y avoir effectivement des capacités à pouvoir mieux se comprendre, mieux comprendre d'où les gens viennent et être capable de lever une génération. Parce que ne faut pas s'y tromper, ça prendra le temps d'une génération. On ne peut pas demander de régler en 3 jours des problèmes qui ont mis 30 ans à s'enquister et qui mettront autant de temps pour se régler.
Je voulais vous remercier en tout cas tous ici présents autour de cette table, Virginie Riva, Laure d'Autriche, Michaël Darmon bien sûr, et notre professeur Jean-Louis Auduc de m'avoir accompagné pour cette édition spéciale en direct sur Europe 1. C'était très important pour nous à Europe 1 de vous faire vivre ce moment en direct, et je voudrais qu'on conclue cette édition spéciale en réécoutant un peu de cette chanson qui a été choisie par la famille de Samuel Paty pour l'entrée du cercueil dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, leaves you, baby. Et c'est donc avec U2, One, que l'on va se quitter ce soir après cette édition spéciale qui, je pense, a été très forte pour nous tous ici en émotion. Dans un instant, sur Europe 1, ce sera Émilie Mazoyer. Je vous dis à demain, 18h, pour Europe Soir. D'ici là, on continue d'écouter ensemble Le Monde Changé. Europe 1.